Vous écoutez RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison inédite de Confidentiel. Nous allons à nouveau explorer des destins célèbres, des vies exposées à la lumière, au succès, aux applaudissements, même si l'envers du décor dissimule souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui, bien des doutes, des désillusions et des fragilités. La chanteuse américaine dont je vous raconte l'histoire est aujourd'hui encore une diva, celle des années disco, des paillettes et des nuits étourdissantes sur les pistes de danse. Ses battements de cœur et ses soupirs avaient suffi à faire d'elle un fantasme sexuel, une tenue qu'elle ne voulait pas et qui allait devenir un carcan. On en parlera en toute fin d'émission avec notre invité Jean-Pierre Pasqualini. Mais tout de suite, de l'extase à l'enfer, la vraie vie de la reine du disco, Confidentiel Donna Summer, c'est tout de suite sur RTL.
RTL, Confidentiel Donna Summer.
Jean-Alphonse Richard.
Donna Summer n'a jamais été la reine du disco, ni la torride diva des alcôves. Si elle se prêta au jeu, c'était uniquement parce qu'elle voulait être célèbre, au risque d'y laisser ses dernières forces et de feuilleter un jour l'album des regrets. La Donna, Adrienne Gaines, est née le 31 décembre 1948 dans le quartier Mission Hill à Boston. Les Gaines et leurs 7 enfants, 6 filles et un garçon, sont la première famille noire à s'installer sur Parker Hill Avenue, au numéro 16, dans une jolie maison au toit pointu. La famille appartient à la toute petite bourgeoisie. Une mère, Marie, institutrice, un père, Andrew, électricien. Dans ses souvenirs, Donna évoquera une enfance heureuse et insouciante, où il était toutefois interdit de transiger avec la religion et la morale. Le premier jour où elle portera du vernis à ongles, son père lui administrera une correction dont elle se souviendra toute sa vie.
While the Angelus was ringing, calling for the evening prayer, I could hear the choir singing, and I saw you standing there.
Donna Gaines, pas encore Donna Summer, troisième de la fratrie, apprend toute jeune à se bagarrer et à faire sa place au milieu de ses sœurs et de son frère, le propre des familles nombreuses. Mais c'est à l'école qu'elle découvre le vrai visage de la violence, celui de la confrontation et de la ségrégation raciale, le quotidien de l'Amérique des 50s. Les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, elle va grandir sans jamais choisir son camp. « J'étais une outsider, je ne voulais pas prendre parti et vivre dans l'exclusion. Le racisme, je n'ai vraiment su ce que c'était quand je suis devenue adulte », dit-elle. Sur les ondes courtes d'un transistor, ce sont pourtant que des chanteuses noires qu'elle écoute. Mahalia Jackson, Billie Holiday, les Supremes, reprenant leurs paroles et rêvant de leur ressembler. Supreme, In the Name of Love, une chanson qu'aimait beaucoup Donna Summer. On se retrouve dans ce Confidentiel Donna Summer tout de suite sur RTL.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
confidentiel.
La future Donna Summer chante si bien qu'elle a immédiatement intégré la chorale de l'église Grand Aim. Pas de pop ni de rhythm and blues ici, mais du gospel chaque dimanche à la messe. Un jour de novembre se joue le premier acte de son destin. La directrice de la chorale s'est toujours opposée à ce qu'elle chante en solo, mais ce dimanche, elle lui demande de remplacer au pied levé la première choriste, victime de la grippe. Donna Summer se retrouve au premier rang. Elle a tout juste 8 ans, mais elle chante déjà comme une adulte. Une voix puissante et grave. Les paroissiens sont en pleurs. Elle confiera « J'ai vu les larmes de mon père couler et j'ai eu l'impression que Dieu me parlait. Il me disait que je serais célèbre. Il me disait que j'avais le pouvoir de chanter, mais qu'il ne faudrait jamais que j'en abuse. » À partir de ce jour-là, Donna va courir après son obsession, devenir une chanteuse connue, accéder à la lumière. Le ciel peut attendre, la chorale de l'église, les études et les recommandations des parents aussi. Il lui faut faire carrière, être quelqu'un. Je savais que je pouvais y arriver. J'avais une voix. Quand je criais vraiment fort. Je passais mon temps à répéter dans ma chambre et apprendre à respirer. À 17 ans, elle passe le plus clair de ses soirées au rez-de-chaussée d'un garage de Boston, transformé en salle de spectacle. L'endroit, baptisé The Psychedelic Supermarket, le supermarché psychédélique, devient alors l'un des temples de la pop américaine. Au Psychedelic Supermarket, la future Donna Summer monte pour la première fois de sa vie sur scène. Chanteuse d'un groupe de rock qui s'appelle The Crow, le corbeau. Le corbeau, c'était moi, car j'étais la seule noire du groupe, racontera-t-elle. Ici, Donna apprend à chanter sous les sifflets, dans un brouhaha permanent, la salle n'a pas de fauteuil, et dans la pesanteur enivrante des nuages de marijuana. Dans cette faune hippie, elle croise Frank Zappa et chante le même soir que Janis Joplin. De quoi lui donner des ailes, d'autant plus que The Crow produit son petit effet, une rockeuse noire qui plaît à un public blanc, c'est alors du jamais vu.
RTL.
Confidentiel Donna Summer.
Jean-Alphonse Richard.
En quelques mois, Donna Gaines, future Donna Summer, remarquée par la maison de disques RCA, se retrouve à New York. Elle se produit sur la scène d'un autre club d'avant-garde, le Purple Onion, dans le Village. Ici aussi, comme à Boston, elle fait sensation. 3 semaines seulement après son arrivée, elle se présente à une audition pour la déclinaison allemande d'une comédie musicale qui fait déjà jaser et qui s'appelle Air. Scène déshabillée, anti-militarisme échevelé, invitation à l'amour libre et au paradis artificiel Air, sans le soufre et le scandale. Pas question de dire un mot de cette aventure à ses parents. Il lui interdirait de se présenter au casting. 300 candidats ce jour-là dans les bureaux de la production de R. 2 seulement retenus, un garçon et elle, Donna. Semaines plus tard, celle qui va bientôt être Donna Summer débarque à l'aéroport de Munich. Elle n'a jamais mis les pieds en Europe et ne parle pas un traître mot d'allemand. Si elle a accepté cet exil, qui ne durera normalement que 6 ou 7 mois, c'est pour se faire un nom, mais aussi pour changer d'air. Des années plus tard, Elle avouera avoir quitté les États-Unis car elle n'y était plus à sa place. Insultée par les Blancs et une fois tabassée par un extrémiste noir car elle se promenait avec deux filles juives. Il n'y avait pas tout ça en Allemagne. La couleur de peau disparaissait en Europe. Je pouvais exister. Donna Gaines, bientôt Donna Summer, a presque 19 ans, des cheveux courts, de grandes boucles d'oreilles et des tenues hippies. À Munich, elle partage un appartement avec un membre de la troupe, Ronnie Williams, un Californien de 26 ans, ami puis amant. Ce premier boyfriend lui apprend l'allemand. Dans Air, Donna tient l'un des rôles vedettes, celui de Sheila. Presque tous les soirs, elle reprend en allemand une chanson traduite dans toutes les langues et que connaît par cœur le public. « J'avais dit à ma mère que je ne rentrerai à la maison qu'une fois devenue célèbre. Dans 6 ans, elle reviendra à Boston en grande prêtresse du disco et s'appellera Donna Summer. » Donna Summer, la version allemande de Let the Sunshine, la comédie musicale Air, confidentielle Donna Summer sur RTL. En ce début des années 70, Donna Summer vit toujours à Francfort. Le soir, chanteuse dans la comédie musicale Air. Succès ininterrompu, salle comble et tournée dans toute l'Allemagne. Le jour, mannequin pour des photos de pub gentiment sexy. On la voit posée en perruque blonde pour un fabricant de cassettes audio ou adossée à un immense bloc de glace, égérie du soda Africola.
Heirat oder nicht heirat, das ist nicht mehr die Frage. Africola.
Au bout d'un an, je ne voulais plus repartir. Je parlais allemand, je gagnais bien ma vie, toutes les portes étaient ouvertes. Donna Gaines est heureuse, même si pour le moment, elle n'est pas encore Donna Summer. Et demeure une inconnue. Ses sorties en solo sur scène comme au club Domicile à Munich ne marquent pas les esprits. Tout comme le premier disque qu'elle enregistre, sa reprise d'un titre des Jainettes, un groupe des 60s, fait un flop. Donc condamnée à rester une choriste de studio, à courir les cachets dans les comédies musicales du Vienna Folk Opera, dans des versions allemandes de Porgy and Bess, Showboat ou Godspell.
Day by day, day by day, day by day.
La célébrité est en train de lui échapper, mais en cet hiver 1972, Donna s'en moque. Elle a presque oublié sa promesse de faire carrière. Lors d'un week-end de ski à Davos, en Suisse, elle a rencontré un acteur autrichien tout aussi jeune qu'elle, un certain Helmut Sommer. Je lui ai dit que si l'on passait une nuit ensemble, on ne se quitterait jamais, raconte la chanteuse. Quelques mois plus tard, le couple se marie et Donna tombe enceinte. Une petite fille prénommée Nathalie, et que tout le monde appellera Mimi, voit le jour. Pour l'élever, Donna met la chanson entre parenthèses pendant un an. Le couple s'installe à Vienne, puis en Italie, mais très vite, rien ne va plus. La chanteuse s'ennuie, elle qui avait juré la fidélité éternelle, trompe son mari avec un artiste peintre avant-gardiste, Peter Muldorfer. Après 15 mois de mariage, le divorce est prononcé.
Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL.
À Munich, Donna Summer retrouve la chanson. Elle passe la quasi-totalité de ses journées dans les studios d'enregistrement Musicland, choriste pour toutes sortes de productions, jusqu'à ce que sa voix tape dans l'oreille des producteurs et compositeurs Giorgio Moroder et Pete Bellotte. Moroder cherchait à former un groupe de filles, mais il est soudain convaincu que cette américaine vaut de l'or à elle toute seule. Elle sera capable de vendre des centaines de milliers de disques. Donna porte à cette époque son nom de femme mariée, Sommer, avec un O. Une erreur de typographie sur une première pochette transforme le O de son nom en U, donnant ainsi naissance à Donna Summer, qui signifie l'été, aussitôt baptisée et aussitôt célèbre dès son premier titre. Cette Donna Summer, Lady of the Night, grimpe dans tous les hit-parades européens. Une deuxième chanson, The Hostage, est numéro 1 en France, interdite en Allemagne où elle percute l'actualité brûlante, le rapt du patron des chrétiens démocrates retenu en otage par un groupuscule d'extrême gauche. Moroder croit en sa bonne étoile. Il a su détecter Donna Summer et il est persuadé que sa voix est idéalement calibrée pour le nouveau rythme qui émerge, le disco. Moroder respire mieux que quiconque l'air du temps et il sait aussi que l'époque est au soupir. Histoire d'eau est un best-seller en librairie. Emmanuel fait sensation sur les écrans de cinéma. Pourquoi donc ne pas faire de Donna Summer la première Madone sensuelle du disco ? En cette année 1975, Donna Summer, 26 ans, enregistre donc le titre qui va faire d'elle un fantasme érotique. La chanson est directement inspirée du tube français « Je t'aime moi non plus » qui vient alors de ressortir à Londres dans sa version Gainsbourg-Birkin. Murmures et chuchotements, quand Donna écoute le titre, elle répond sans réfléchir « Aucun problème, je peux faire bien mieux que ça ». La chanteuse racontera avoir enregistré en fermant les yeux, en pensant qu'elle était seule avec son boyfriend. Elle dira aussi s'être mise dans la peau de Marilyn Monroe jusqu'à imiter ses gestes et son regard abandonné. Les États-Unis, qui ignoraient jusque-là Donna Summer, vont vite apprendre à la connaître. Le producteur de Los Angeles, Neil Bogart, diffuse le disque lors d'une soirée privée et note que l'ambiance devient torride. Ses invités lui demandent qui est cette Donna. Bogart commande aussitôt une version longue de « Love to Love You Baby » pour le plus grand bonheur des amants. Le titre fera 16 minutes et 50 secondes, le temps de l'extase. Le très sérieux magazine Time dénombrera pas moins de 22 orgasmes. Entier découvre Donna Summer qui pose sur la pochette en déshabillé de soie. Scandaleuse, voire pornographique pour les esprits puritains. La BBC anglaise censure le titre. Les radios américaines ne le diffusent qu'à des heures impossibles, sans pouvoir empêcher que celui-ci ne se hisse jusqu'à la deuxième place des hit-parades. C'est à 2h du matin que l'une des sœurs de Donna entend cette voix et finit incrédule par la reconnaître. Les parents découvriront vite la nouvelle carrière de leur troisième fille, vouée de toute évidence à l'empire des sens. Ils finiront au fil des mois à se faire une raison, mais n'approuveront jamais vraiment la nouvelle Donna, troublante prêtresse des nuits disco. Donna Summer qui sera un jour la reine absolue du disco, mais à quel prix ? On se retrouve après les informations.
RTL.
Confidentiel Donna Summer.
Jean-Alphonse Richard.
En quelques mois, Donna Summer accède à son rêve d'adolescente, devenir célèbre. Avec son premier cachet, elle s'achète un manteau de fourrure, puis offre à sa famille une nouvelle maison à Boston. Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes du showbiz, même si soudain, un vertige inattendu gagne la chanteuse. Refuse-t-elle inconsciemment de gravir l'échelle du succès ? Perçoit-elle de mauvais présages ? Le fait est qu'elle met 6 mois à accepter l'invitation du producteur Neil Bogart pour rentrer aux USA. Il m'a dit « Si tu veux percer, tu dois revenir. Mais je ne voulais pas rentrer », dira-t-elle. À son retour, l'Amérique s'empare d'elle. trois albums disco où tous les titres ne sont que des invitations au désir. Le mot d'ordre du producteur est alors sans ambiguïté. Emmenez Donna chez vous et faites l'amour avec elle. Le spot de pub destiné aux radios dit 17 minutes d'amour avec Donna Summer. La chanteuse est malheureuse, otage d'une image qui ne lui ressemble pas, de plus en plus fréquemment au bord des sanglots. Au magazine Ebony, le plus lu par la communauté noire, elle répète « Je ne suis pas que du sexe et encore du sexe ». Mais elle crie dans le désert, personne alors ne veut l'entendre. Donna Summer, Try Me, I Know We Can Make It, un tube de 1976. Dans ce confidentiel qui est consacré à la diva du disco, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 sur RTL.
Confidentiel Donna Summer,
Jean-Alphonse Richard.
En cette fin des années 70, Donna Summer est une artiste qui accumule les records de vente. Une cash machine pour la maison Casablanca Records qui détient son contrat. Donna est prise dans une tourmente qui l'étouffe. Sentiment de n'être nulle part à sa place. La communauté noire américaine la désigne comme une chanteuse pour les blancs. Mal à l'aise dans un milieu où la drogue circule, à tout va et où la pression est permanente. Avant un concert en Italie, elle ne tient plus sur ses jambes. On doit la placer sous masque à oxygène et la faire asseoir dans un fauteuil roulant. Où qu'elle soit, son étiquette de bombe sexuelle lui colle à sa peau nue.
Beep, beep.
High Sierra Room, un casino de Las Vegas. On la présente comme la First Lady of Love, la première dame de l'amour. Après le show, elle aura besoin de son masque à oxygène et affichera un regard épuisé. Donna se noie alors dans les antidépresseurs et le Valium. J'étais comme un zombie qui traversait les pièces, incapable de me rappeler le nom des personnes que je voyais, racontera-t-elle. Après 2 ans de succès ininterrompu, Donna Summer est une femme célèbre, mais seule et désespérée. Un matin, elle tente de se jeter dans le vide depuis une fenêtre du Navarro Hotel à Central Park à New York. Mais sa jambe reste coincée dans un rideau. C'est une femme de ménage, accourue à cause du bruit, qui parvient à la sauver. La chanteuse suit un traitement, s'éloigne de son entourage et va désormais tout faire pour effacer son image de diva incandescente. Tout mettre en œuvre pour se débarrasser de la nuisette qu'on lui fait porter sur chacune de ses pochettes. À un moment, dit-elle, j'ai chassé ce mensonge et j'ai voulu montrer qui j'étais vraiment. She works hard for the money. 1983, Donna Summer, bien sûr, dans ce confidentiel qui lui est consacré sur RTL. À tout de suite.
RTL.
Confidentiel Donna Summer.
Jean-Alphonse Richard.
Donna Summer, star érotique du disco, tourne la page. Elle fréquente les évangélistes et le mouvement Born Again. Prêche la bonne parole dans les studios et tente même de convertir ses musiciens à la rédemption. Jusqu'à son dernier concert, elle prendra l'habitude de prier avec ses sœurs avant son entrée sur scène. Donna Summer change de vie. Le 16 juillet 1980, elle se marie au chanteur et compositeur Bruce Sodano. Deux filles, Brooklyn puis Amanda, grandissent avec Mimi, leur grande sœur. La famille habite Los Angeles, déménage dans le Connecticut, puis se fixe à Nashville. Je ne voulais pas que les filles soient près de Hollywood, je ne voulais pas les exposer à tout ça, dit la chanteuse. Le couple restera toujours l'un des plus discrets et des plus unis du showbiz, absent de la chronique People et encore moins abonné au scandale. Personne ne croit à l'époque à ce nouveau départ d'une chanteuse appelée à disparaître. Le milieu de la chanson n'est pas tendre avec Donna Summer. Un ex-agent la présente comme une artiste fragile, ayant sans cesse besoin qu'on lui tienne la main. Un producteur évoque une diva capricieuse, capable d'annuler un déplacement, car son astrologue lui avait demandé de ne pas prendre l'avion ce jour-là. On lui prédit qu'elle ne survivra pas à la destruction de son image et à la fin du disco. Mais elle ne lâche rien. J'étais comme Marilyn Monroe, à qui on faisait toujours jouer la blonde stupide et qui ne pouvait pas montrer qui elle était vraiment. Ça a fini par la tuer. Je ne voulais pas finir comme ça. Contre toute attente, le succès est au rendez-vous. Hot Stuff et disque de platine, Grammy Award de la meilleure performance vocale. Hot Stuff. Pour ce titre, Donna Summer a reçu un Grammy Award. On marque une pause dans ce confidentiel. A tout de suite sur RTL.
Confidentiel Donna Summer
sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Donna Summer va ainsi traverser les décennies 90 et 2000. Tour à tour sacrée par David Bowie, Bruce Springsteen et la nouvelle génération de DJ. Inspiratrice de Madonna et de Whitney Houston, choisie par Barack Obama pour chanter le jour de son investiture. Seule ombre viendra peser sur cette trajectoire, ses propos selon lesquels le sida serait une punition divine. La chanteuse démentira, mais la polémique ne cessera d'enfler. La communauté gay s'éloignera alors de son icône. Le 17 mai 2012, 4 ans après son ultime album et une ultime première place dans les hits, Donna Summer, 63 ans, meurt d'un cancer du poumon à l'hôpital de Naples, en Floride. Son mari, Bruce Sodano, et ses filles, personne n'était au courant de sa maladie. Donna Summer ne fumait plus depuis des années. Devant les médecins, elle attribuait sa tumeur aux fumées toxiques du 11 septembre 2001. Un mélange de ciment, d'acier et d'amiante qu'elle aurait respiré alors qu'elle séjournait le jour de la catastrophe dans un hôtel voisin des Tours Jumelles. Donna Summer ne voulait surtout pas qu'on se souvienne d'elle comme l'ardente princesse du disco, cette créature qui lui était devenue étrangère. Elle rêvait que des années après sa mort, on réécoute ses disques les yeux fermés et que soudain on s'exclame comme à ses débuts « Mais bon Dieu, qui est cette fille ?» I Feel Love, l'un des tubes inoubliables de Donna Summer. Confidentiel continue, on se retrouve tout de suite avec notre invité Jean-Pierre Pasqualini.
Confidentiel Donna Summer.
Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour Jean-Pierre Pasqualini.
Bonjour.
Directeur des programmes de la chaîne Mélodie, excellent connaisseur de la chanson et spécialiste du disco. Jean-Pierre Pasqualini, est-ce que Donna Summer est toujours aujourd'hui sur les platines des DJs ?
Elle l'est déjà elle-même et ses chansons ont traversé le temps parce qu'elles ont été beaucoup reprises.
Qu'est-ce qu'elle avait un peu de plus que les autres, Donna Summer ?
Bah, elle a été une des pionnières déjà. Elle a été une étoile en 79, au moment où le disco est au plus haut. Mais dès 74, elle chante des chansons qu'on va appeler pré-disco, comme The Hostage, qui va être un énorme succès, surtout en France d'ailleurs. C'est en France que ça va démarrer le plus fort.
Alors là, on est tout début, effectivement, de la construction de la carrière de Donna Summer. Et il va y avoir cet immense titre, Love to Love You Baby, la chanson aux 22 orgasmes, on l'a raconté dans ce confidentiel. Qui oserait faire ça aujourd'hui ?
Qui oserait faire ça ? Je ne sais pas, mais qu'elle ait osé, c'est étonnant, parce qu'elle avait une culture très chrétienne, elle avait grandi dans les églises gospel. C'est étonnant parce qu'elle a co-signé ce titre, d'ailleurs elle a co-signé beaucoup de ses chansons, hein, Donna Summer, elle ne s'est pas contentée d'être interprète. Donc, cette chanson qui raconte quand même, avec des mots très très suggestif, un acte sexuel, qui a d'ailleurs inspiré Céron, hein, le Love to See Minor de Céron l'année suivante, s'est inspiré de ces orgasmes-là, et plein de chansons de disco d'ailleurs sont devenues sexuelles à cause d'elle. Ça a été la pionnière et du disco sensuel, voire plus.
Finalement, Donna Summer, elle n'est pas très à l'aise à l'époque avec cette image de déesse sexy, érotique même, on peut le dire.
Ben justement, je crois que c'est par rapport à sa culture chrétienne, à son passé. Non, elle n'est pas à l'aise du tout avec tout ça, parce que elle essaye de prouver qu'elle sait faire autre chose. Elle va avoir beaucoup, beaucoup de mal à chanter d'autres chansons, même si elle en chante des chansons plus pop, moins disco. Elle va même se séparer très vite, dès 77, alors que ça fait que 2-3 ans qu'elle est avec Giorgio Moroder et Pete Belotte, ses producteurs. En tout cas, elle avait une forte personnalité elle va prouver dès cette année 77 qu'avec I Feel Love, elle renouvelle le disco, parce que I Feel Love, c'est un de ses tubes énormes et il est 100% synthétique. Donc, elle va quand même faire avancer l'histoire de la musique. C'est pas rien, Donna Summer.
Carrière en Allemagne, carrière ensuite aux États-Unis.
Mondiale.
Quelle image elle a ? Il faut se souvenir dans ces années 70-80. Quel poids pèse-t-elle, Donna Summer, dans le monde de la chanson ?
Ah ben, au niveau de la maison de disques Casablanca, c'est énorme, c'est tellement énorme que quand en 80 elle va quitter Casablanca pour un nouveau label qui s'appelle Geffen, elle va vraiment avoir des gros problèmes. Il y aura des procès entre Casablanca et Geffen. Elle devait un album, comme on dit dans le jargon, donc elle enregistrera à nouveau après 80 un album Casablanca. C'est une poule aux œufs d'or que tout le monde veut dans sa basse-cour.
Vous disiez fort caractère, c'est une star difficile, Donna Summer.
En tout cas, dans ce métier, surtout à l'époque, quand elle était une femme et une femme de couleur, c'était pas facile. Hein. Elle était peut-être pas facile pour les hommes qui aimaient bien les poupées mannequins. Elle savait ce qu'elle voulait, elle a tout le temps co-signé ses chansons avec tous ses partenaires. Même en 83, son dernier tube, She Works Hard for the Money, elle le co-signera encore.
Il faut rappeler, Jean-Pierre Pasqualini, que Donna Summer a fait aussi une carrière avec sa famille. Ses sœurs sont omniprésentes autour d'elle. Et elles sont choristes, je crois.
Ses sœurs et même ses maris. Autant le premier, qui est le papa de sa première fille, Mimi, que le papa de ses deuxième et troisième filles. Je pense qu'elle avait besoin de ça. Ses sœurs l'ont beaucoup protégée, oui.
Qui a-t-elle inspiré, Donna Summer ?
Féministe de couleur, ça lui a donné une aura toute particulière. Faut pas oublier qu'elle a même signé une chanson pour Dolly Parton, qu'elle a chanté Bruce Springsteen, qui a été un des chanteurs les plus atex des USA. C'est vrai que faut pas la limiter à ses tubes, il faut aller écouter, explorer son répertoire, et c'est ce qu'on fait de jeunes artistes. En 79, au fait de sa gloire, c'est quand même Barbara Streisand qui va lui demander d'enregistrer avec elle. Donc elle était capable de tout chanter, sur toutes les tonalités, c'est une grande chanteuse. Il ne faut pas se contenter d'écouter la voix de tête des débuts, parce qu'on pourrait avoir une image tronquée en disant oui, bon, c'est une petite chanteuse. Non, ce n'est pas une petite chanteuse, il faut écouter certains titres qui prouvent que c'est une grande chanteuse.
Merci Jean-Pierre Pasqualini de nous avoir parlé de Donna Summer. Merci à Justine Vigneault qui a préparé cette émission, à Sébastien Dudouy pour la réalisation. Merci pour votre fidélité à Confidentiel sur RTL. La semaine prochaine, une autre déesse en maillot de bain, celle-ci très secrète, Ursula Andress.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel. Vous écoutez RTL.